Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Noéla Luzitu, Kabambi. Journée mondiale de l'environnement, c'était le 5 juin. À Kinshasa, des voix s'élèvent pour dénoncer la saleté de la capitale de la RDC. Des poubelles débordées aux décharges sauvages et spontanées, sans parler des déchets en plastique, Kinlabel d'antan n'existe plus. Dans ce journal, une description de la situation avec Blaise Shindani Kambala. Un conflit de compétences existe entre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État, du moins en ce qui concerne l'interprétation de la décision de justice rendue par le Conseil d'État le 20 mai dernier en invalidation de l'élection de gouverneur de la province du Congo central. C'est l'avis d'un collectif d'avocats. Il demande l'arbitrage du chef de l'État en sa qualité de magistrat suprême. Le doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi, Milor Ngoy-Chucha, est l'invité de ce journal. Il va parler de la sécurité et la souveraineté alimentaire en RDC, thème des journées scientifiques organisées le week-end dernier par cette université. Bonjour à tous. Le monde a célébré le 5 juin, la 50e journée mondiale de l'environnement, occasion de sensibiliser aux efforts de protection et de restauration de la terre. À Kinshasa, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la saleté dans laquelle la ville se trouve. À la cité ou au centre-ville, c'est pareil. Des poubelles débordent là où il y en a. D'autres sauvages sont créés un peu partout. Des déchets, surtout en plastique, sont très visibles dans la ville de Kinshasa. Blaise Shindani nous décrit la situation.
Kinshasa, jadis Kinlabel, est devenue une grande poubelle. Dans une mégapole de plus de 12 millions d'habitants, c'est uniquement au centre-ville qu'on trouve des poubelles publiques. Conséquence, les avenues, les rivières et les caniveaux sont devenus des poubelles où sont jetées des bouteilles en plastique et d'autres déchets. En cas de forte pluie, des routes, des quartiers entiers sont inondés. L'eau privée des voies d'évacuation se débrouille comme elle peut, charriant au passage ses bouteilles. À cette occasion, la régie des eaux ferme ses points de captage. C'est pour éviter que les bouteilles et autres déchets n'endommagent ses conduites d'eau. La situation a commencé à se compliquer depuis 2015, lorsque l'hôtel de ville a repris la gestion des déchets. Pendant 10 ans, soit de 2005 à 2015, ces secteurs étaient géré par le programme POC, puis PARO, financé par l'Union européenne. Malgré le programme Kinbopeto lancé il y a 5 ans par l'autorité de la ville, Kinshasa est loin de retrouver sa belle robe. De Kimbuta à Ngobila, tous se sont plaints d'un manque criant de moyens financiers pour organiser la gestion des déchets de la ville. Des partenariats ont été signés, dont les derniers avec la société turque Albarak, pour aider à assainir la ville. Les autorités de Kinshasa, en tout cas, y place beaucoup d'espoir.
Parlons justement de la gestion des déchets plastiques. C'est un vrai et véritable problème à Kinshasa. Pourtant, la ville a pris des initiatives. Elle a notamment signé des partenariats avec des structures pour la collecte et aussi le recyclage de ces déchets. Mais pourquoi sont-ils encore omniprésents dans la ville? Quelle solution pour une évacuation efficace? Tentative de réponse dans ce reportage de Moïse Lindombe.
Dans le cadre de ces partenariats, on a vu au départ de nombreux jeunes s'adonner dans les collectes des bouteilles en plastique dans des quartiers et des décharges publiques pour vendre aux entreprises des recyclages. Certains continuent, mais beaucoup d'autres ont abandonné. L'activité n'est pas assez rentable pour eux.
Le peuple ne peut pas refuser de ramasser des déchets. C'est que la somme qu'ils proposent, très peu par rapport aux attentes. Toutes ces bagues qui contiennent des plastiques sont à 1500 malgré leur dimension. Même ceux-là qui le payent à 1500 francs, je ne crois pas qu'ils aillent le vendre au-delà de 5 dollars. Il va toujours le vendre au bas prix. Donc, les bénéficiaires sont toujours propriétaires de ces entreprises.
Du côté des entreprises de recyclage, CleanPlast par exemple affirme ne recevoir que 20 à 30% des 4000 tonnes de plastique qu'elle est en même de transformer chaque mois. Beaucoup estiment qu'une hausse des prix d'achat des déchets plastiques permettait de remédier à cela. Ils prennent pour exemple une autre opération qui marche bien dans la capitale, celle d'achat de la ferraille, revendue ensuite à une entreprise de fabrication des barres de fer. Rien n'arrête ceux qui s'y adonnent. On en a vu récupérer des châssis de véhicules dans les rivières, déterrer des métaux qui faisaient le malheur des habitants de certaines rues depuis des années.
Toujours à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, au moins 80 personnes, notamment les autorités politico-administratives et les leaders locaux de la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord-Kivu, ont été sensibilisés mercredi aux défis auxquels les femmes font face pour accéder aux sources d'énergie ménagère. Une sensibilisation organisée par la structure dénommée Université d'Oicha dans l'initiative de la résilience climatique et le développement communautaire Union CRIDC. Neville Mumbere, l'un des initiateurs, déclare que c'était une occasion de présenter des alternatives pour valoriser les déchets ménagers afin d'obtenir une énergie domestique et renouvelable. Neville Mumbere est joint au téléphone par André Kitenge.
Nous avons compris qu'actuellement, avec les enjeux sécuritaires, il devient de plus en plus difficile à la femme de l'Est du pays d'accéder aux sources de compétition dans leur ménage. Et s'ils le font parcourir des dizaines de kilomètres à la recherche de bois de chauffage, et avec la situation actuelle, elles sont exposées à beaucoup de dangers. Ainsi, nous avons proposé à ce jour aux autorités politico-administratives, aux leaders et aux acteurs locaux des alternatives des énergies ménagères pour soulager la souffrance de la femme de l'Est, ce qu'elle traverse pour accéder aux sources de compétition. Nous nous sommes investis, nous, à Takinokrit, de travailler dans les alternatives de transformation des déchets biodégradables à charbon écologique. Et vous savez, avec les enjeux climatiques à ce jour, il est de plus en plus préférable à ce que des alternatives pareilles soient développées pour mitiger aussi la pression qui se fait sur les forêts, solliciter le bois pour les abris, les solliciter pour la cuisson, les solliciter comme bois d'œuvre. Ce sont là les facteurs qui sont en train d'amener à la disparition de nos forêts.
Les participants ont été également sensibilisés à la gestion des déchets plastiques et leur transformation en pavés ou en carburant pour lutter contre le réchauffement climatique. Toujours au nord Kivu, dans la ville de Goma, les travaux de construction d'un collecteur d'eau qui part de la bifurcation Afiabora jusqu'au croisement entrée président dans la commune de Karisimbi battent de l'aile. Les travaux de finition d'une partie de cet ouvrage exécuté par l'Office des routes avec l'appui financier du Fonds national d'entretien routier FONER, ainsi que du gouvernement provincial n'avance pas et se font d'une manière précaire selon les observateurs. Le point avec Gabriel Wamenya.
Une autre partie de cet édifice, long de plus de 1000 mètres, reste toujours béante, à présent transformée en une décharge où sont actuellement jetées des immondices provenant du marché à la Nine. Ces déchets y dégagent une odeur nauséabonde et constituent un parc à moustiques, affirment les habitants vivant aux alentours du site des dix travaux. Ils plaident pour l'exécution rapide des travaux afin de les épargner des maladies. Contacté, le directeur provincial de l'Office des routes reconnaît la lanterne dans l'exécution des travaux. L'ingénieur Papi Minga Malinga tente de rassurer la population. Il affirme que les travaux de mise en œuvre de ces collecteurs d'eau seront exécutés selon les plans techniques conçus quant à ces. Rappelons que ce projet a été lancé l'année dernière et qu'il aurait dû être exécuté en 6 mois selon les sources de l'Office des routes. Pour couper court aux soupçons d'un éventuel détournement des fonds destinés aux travaux, l'Office des routes a confirmé que la totalité du financement lié aux travaux de cet ouvrage a déjà été débloqué par les FONER. La principale interrogation des bénéficiaires reste celle de savoir pourquoi les travaux n'en finissent pas et traînent à longueur.
Un collectif d'avocats demande au chef de l'État, en sa qualité de magistrat suprême, d'arbitrer ce qu'il considère comme un conflit de compétences entre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Ce conflit est né, déclare-t-il, de l'interprétation d'une décision de justice rendue par le Conseil d'État le 20 mai en invalidation de l'élection du gouverneur de la province du Congo central. La Cour constitutionnelle, à son tour, a rendu un arrêt en matière d'interprétation et contrôle des constitutionnalités de cette décision en l'annulant, car jugée contraire à la Constitution. Il s'agit d'une matière qui n'entre pas dans la compétence de cette haute juridiction qualifiée d'arbitraire. Nous ont déclaré hier jeudi ces praticiens de droit qui disent défendre la loi. L'un d'eux, l'avocat au barreau de Kinshasa Matete, Jean-Marie Ntumba, est au micro de Jeff Ngoy.
En tant que praticien du droit, il y a des principes sacro-saints qui régentent la procédure en la matière. Il y a le problème de l'interprétation ou encore de l'erreur matérielle. Il n'y a que la juridiction qui a prononcé la décision, ici dans les cas d'espèce, l'arrêt, qui peut interpréter sa décision ou encore régler la matière des erreurs matérielles.
Maintenant, quelle en est la conséquence? Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables.
De un, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation, de juridiction indépendante. Au sommet, ils rendent leurs décisions en dernier ressort, chacun selon les matières qui entrent dans sa compétence. Donc, la Cour constitutionnelle, en entrant dans ce qu'il ne devrait pas faire, a créé de l'arbitraire. Maintenant, qu'est fait? Ce que je pense, c'est qu'il y a un magistrat suprême qui est au-dessus, c'est le chef de l'État qui devrait absolument régler cette situation, soit par une ordonnance.
Ouverture jeudi à Kinshasa de l'atelier des stratégies inclusives pour une bonne gouvernance financière, électorale et des ressources naturelles. Cet atelier est l'initiative de l'Institut républicain international, IRI, la MONUSCO et Ebouteli, Institut congolais de recherche, partenaire du groupe d'études sur le Congo GEC. Pour les organisateurs, l'objectif principal est de dépasser la simple prise de conscience des problèmes pour développer des stratégies pratiques, réalistes et actionnables pour favoriser une gouvernance inclusive des finances publiques, des fonds électoraux et des ressources naturelles à tous les niveaux. Daniel Tambinzoni.
Il est attendu de plusieurs experts qui prennent part à ces travaux de proposer des pistes de solutions pour aider les institutions et organisations de la société civile à démocratiser la gestion participative et inclusive des ressources financières, électorales ou celles issues des ressources naturelles, à améliorer la représentation des femmes, des jeunes et des autochtones dans les structures de gouvernance au niveau national, provincial et local et à lutter efficacement contre la corruption et les autres pratiques néfastes de gestion. Au nombre d'experts de la première journée, l'Observatoire de la dépense publique a présenté un aperçu de la gouvernance des ressources publiques en RDC. Madame Chounalo Ponda, chef de service de communication à l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC, a parlé des réalisations de l'agence.
Par exemple, en ce qui concerne la thématique électorale de la ligne bleue anticorruption du numéro 158 qui avait été lancée le 10 avril pour entourer le processus électoral et qui permet une participation citoyenne massive par ce dispositif de dénonciation qui était mis à leur disposition à la lutte contre la corruption.
La présentation de Merveille Gozo, avocate et membre de la société civile sur la thématique intitulée « Analyse des mécanismes légaux et réglementaires en vigueur pour la participation des femmes, jeunes et autochtones » a clôturé la première journée.
Retour au Nord Kivu, double dotation de la coordination provinciale du cadastre agricole hier jeudi à Goma. Il s'agit des équipements de bureaux et des engins roulants. C'est pour permettre à ce service de travailler dans des conditions optimales et aussi pour être présent sur le terrain afin de promouvoir le secteur agricole. La cérémonie de remise officielle de ces matériels s'est déroulée au gouvernorat de province, présidée par le gouverneur de province lui-même, Denis Lukeso, nous en dit plus.
La première dotation est celle de l'ONG internationale Zoa en équipement bureautique, alors que le gouvernement provincial, lui, a fait un don d'engins roulants, notamment 10 motos de terrain. C'est pour permettre la mobilité de ces services sur le terrain. Pour le gouverneur militaire, l'agriculture au Nord Kivu occupe environ 70% de la population active, d'où l'importance de porter un regard bienveillant sur ce secteur qui est aussi producteur que les richesses du sous-sol, a dit le général-major Peter Chirimwami.
Cette potentialité agricole vaut mieux que même que les sous-sols. Nous sommes capables d'avoir beaucoup d'argent dans la terre que dans les sous-sols. Et donc, nous allons privilégier cette vision du chef de l'État de mettre en place des mécanismes pouvant faciliter à ces services d'avoir beaucoup plus de production.
Le coordonnateur provincial du cadastre agricole, l'ingénieur Alain Kitumaini, estime pour sa part que cette dotation va permettre à son service de promouvoir le secteur agricole en province et de donner ainsi un nouvel élan à l'agriculture. Le gouverneur a révélé qu'avant la guerre, le secteur agricole en province participait à la hauteur de 43% des exportations. Cependant, tout est par terre à cause de l'insécurité. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Une page noire dans ce journal, le professeur Norbert Ezadri Egouma, président du mouvement social lumumbiste MSL et ancien rapporteur de l'Assemblée nationale, n'est plus. Selon des sources proches de ce parti, membre de l'Union sacrée de la Nation qui annonce cette nouvelle, Norbert Ezadri Egouma est décédé le 31 mai dernier à Bounia en Ituri, où il séjournait depuis 2023 pour des raisons électorales. Le bureau du mouvement social lumumbiste et la famille de l'illustre disparu ajoute que l'inhumation interviendra le 8 juin prochain à Ariwara, selon le programme élaboré par la famille biologique.
Actualité internationale.
La grève se poursuit dans les banques du Mali. Après une première journée très suivie hier jeudi, le SINABEF, syndicat des banques et assurances du Mali, maintient son appel à la grève pour obtenir la libération de son secrétaire général, emprisonné mercredi. Mamadou Ba est également numéro 2 de l'UNTM, la première centrale syndicale du Mali. Dans ce contexte très tendu, l'opposition appelle aussi à manifester contre les difficultés économiques et plus largement contre le régime en place. Le rendez-vous donné par l'opposition est fixé à 14h locale ce vendredi, place de la Liberté devant la mairie de Bamako.
L'invité.
La sécurité et la souveraineté alimentaire en RDC étaient au centre des journées scientifiques organisées par la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Lubumbashi le week-end dernier. À cette occasion, les experts ont fait des recommandations pour sortir le pays, notamment le Haut-Katanga, de la dépendance alimentaire. Pour en parler, le doyen de cette faculté est notre invité. Milor Ngoïchoucha s'entretient avec Jean Gandou.
Monsieur le doyen, bonjour.
Bonjour.
Comment peut-on assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire en RDC, plus particulièrement ici à Lubumbashi, quand on sait que la ville de Lubumbashi dépend en grande partie de l'importation, même pour des biens qui pouvaient être trouvés localement?
C'est effectivement l'objet de nos journées scientifiques. On tourne autour de la sécurité alimentaire. Plusieurs pistes de solutions ont été proposées justement. Ces pistes de solutions partent principalement de l'amélioration de nos pratiques culturelles, de l'amélioration de notre système d'élevage, de l'amélioration de notre système de production de semences pour être plus ou moins autonome et souverain. Mais par-dessus tout, le constat qui se dégage, c'est une question d'abord liée à de la volonté politique. Parce que nous avons des conditions qui sont de loin meilleures par rapport à ce qu'on a en Afrique australe. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, notre production est complètement déficitaire. Donc c'est une question de volonté politique. Les experts ici ont présenté des très bons modèles, de très bons plans de développement, du secteur agricole qui existent. Mais maintenant, nous devons trouver un moyen de faire bouger le politique pour qu'il puisse investir effectivement dans la production agricole.
Est-ce un problème d'investissement, un problème de moyens ou un problème de la diversification économique?
C'est vraiment les trois problèmes tels que vous les avez épinglés. À la fois un problème d'investissement, parce que la production agricole à l'échelle industrielle pour nourrir la population et même la nation exige un investissement important. Déjà un investissement en termes d'infrastructures routières, parce qu'il faut relier les centres de production, les centres de consommation. C'est un problème d'investissement dans les infrastructures même de production et de transformation. Nous avons un déficit énergétique qui est décrié dans le secteur minier, mais c'est le cas aussi dans le secteur agricole. Si on veut faire de la transformation, il nous faut absolument améliorer l'approvisionnement en énergie électrique. Et c'est un investissement aussi en termes de semences de bonne qualité, en termes de fertilisants. Le tout est vraiment chapeauté par une bonne politique agricole. On voit qu'il y a un regard d'intérêt pour le secteur de l'agriculture, mais il faut que cela soit encadré et appuyé justement par les décideurs. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les sols tropicaux de manière générale, et les nôtres en particulier, ne sont pas des sols de très bonne qualité pour de la production agricole. C'est vrai que par endroits, comme ici chez nous dans la vallée de la Loufira, on peut trouver des sols de très bonne qualité, mais la grande majorité de nos sols sont des sols qui sont d'abord très acides d'abord, très pauvres en nutriments, et qui exigent souvent un apport en amendement pour les améliorer. Et donc il faut un investissement, on ne peut pas prétendre à de la production de grande qualité et en grande quantité si on n'investit pas dans les fertilisants.
Et donc, assurer la sécurité alimentaire, la souveraineté ou l'indépendance aussi, ce n'est pas pour demain.
Ça peut se faire très vite. Nous avons les ressources humaines. Il y a des secteurs qu'il faut encore former. Il faut encore former des techniciens. Nous avons un regain d'intérêt pour le secteur, mais la volonté politique peut faire que nous pouvons aller très vite. Ça peut se faire vraiment très vite.
Pour terminer avec ce dérèglement changement climatique. Il y a les pays de l'Afrique australe qui généralement nous fournissent en produits agricoles, le maïs et autres, qui sont frappés. Mais comment est-ce que la province du Haut-Katanga, particulièrement la ville de Lubumbashi, peut facilement s'en sortir, parce que les mois qui viennent ne seront pas de bon augure pour la province?
Pour le moment, nous sommes obligés à très court terme d'aller chercher là où le maïs peut être disponible pour approvisionner la province. Deuxièmement, c'est de sensibiliser aussi la population pour recourir à d'autres sources alimentaires. Ça veut dire, en dehors du maïs, on peut promouvoir d'autres spéculations qui existent. Et puis, sur le moyen, sur le long terme, nous encourageons déjà ce que la province fait en termes d'appui à la production locale avec des subventions. Maintenant, nous devons appuyer à nouveau cela, continuer et essayer d'optimiser ce qui se fait déjà pour le moment.
À Lubumbashi, il faut combien de tonnes pour s'autosuffire?
Pour l'ensemble de la province, on a estimé le besoin à plus ou moins 800 000 tonnes. Donc, les besoins sont quand même par an. Et ça fait quand même beau.
La province produit combien annuellement?
Nous sommes largement en dessous.
Donc, le gap est très important.
Le gap est absolument...
D'où l'implication de tout le monde dans l'agriculture.
Tout le monde dans l'agriculture. Et comme je l'ai dit, l'agriculture est une activité qui exige beaucoup d'investissements. Il faut investir dans les infrastructures.
Même à petite échelle?
Même à petite échelle, on peut le faire. Il faut de l'investissement. Il faut soutenir les filières pour que les agriculteurs à la base se retrouvent. Nous, ce que nous prenons, c'est que l'agriculture se fasse sous forme de business actuellement. Et cela est possible.
Monsieur le doyen Choucha, je vous remercie.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.